On s'entretenait un peu plus tôt avec l'Observatoire du développement de l'Outaouais qui a récemment fait paraître un rapport sur les déserts alimentaires en Outaouais. Donc, ça met en lumière... pour chez nous, ça résonne beaucoup hein, parce qu'on se rend compte que à plusieurs endroits dans la vallée de la Gatineau, on se retrouve dans un désert alimentaire. Donc, on expliquait que c'est de se trouver à 16 km à vol d'oiseau d'une épicerie, ce qui est plutôt rare là, si on est à l'extérieur de Gracefield et de Maniwaki. Donc, c'est quelque chose qui résonne, comme je disais, chez nous. Et on a, au bout du fil, pour nous en parler et pour analyser tout ça et parler des impacts que ça peut représenter, chez nous, on a déjà une situation socio-économique passablement difficile, une population âgée qui est en forte proportion dans la population. Monsieur François Pays, vous êtes le directeur général de la table de concertation sur la faim et le développement social en Outaouais. Bonjour.
Bonjour.
Je trouve ça fort intéressant, l'étude qui a été faite. Ce n'est pas la première du genre. On dit que la dernière, justement, a été faite en 2017, donc un peu avant la pandémie. Là, on refait ce portrait des déserts alimentaires en Outaouais. D'entrée de jeu, ce n'est pas parce que vous baignez là-dedans tous les jours. C'est rien de surprenant pour vous, mais j'imagine que c'est un outil intéressant pour vos partenaires.
Tout à fait, oui. Ça nous permet d'identifier des secteurs où le coût d'accès à l'alimentation est plus élevé, où les gens ont plus de difficultés à se rendre à l'épicerie et où ça va avoir un impact disproportionné sur leur portefeuille.
Et dans une région où on est éloigné, comme je disais, à l'extérieur de Gracefield et de Maniwaki, on n'a pas le choix d'avoir une voiture chez nous et on a une population vieillissante. C'est des éléments qui font en sorte que ces déserts alimentaires, parce que c'est pas parce qu'on est dans un désert alimentaire qu'on est forcément dépourvu de moyens. On le voit, il y a des endroits où les gens sont bien à l'aise financièrement et qui sont quand même dans un désert alimentaire. Mais chez nous, les impacts peuvent être plus importants pour les raisons que j'ai nommées.
Tout à fait. Ben, en fait, un désert alimentaire, c'est une question d'accès à l'alimentation. L'accès à l'alimentation, c'est physique, mais c'est aussi social ou économique. Donc, vous avez des territoires qui sont dans des déserts alimentaires, mais vous avez des gens très favorisés qui peuvent se déplacer, qui ont plusieurs véhicules dans le foyer et qui ont un accès qui n'est pas trop entravé et qui ont la possibilité d'acheter des produits aux tarifs qui sont proposés dans le commerce le plus proche, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Souvent, en fait, les gens doivent se déplacer plus loin pour avoir accès à un type d'épicerie ou de supermarché qui est plus abordable. Donc, dans la vallée de la Gatineau, c'est certain que c'est un enjeu spécifique où vous avez des populations où la mobilité est moins importante, notamment des personnes plus âgées, où l'accès à des services de livraison ou l'utilisation de plateformes numériques, ce n'est pas possible en raison de l'éloignement. Donc, vous avez un petit peu une convergence de cette problématique d'accès physique et une problématique d'accès qui soit économique.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la population? C'est de l'accès moins facile à des denrées frais, de la nourriture fraîche et les prix aussi. C'est plusieurs choses qui viennent impacter finalement. L'effet est double et même triple dans certains cas, justement pour les populations qui sont déjà vulnérables.
Tout à fait, oui, parce que plus vous êtes dans un milieu éloigné, plus votre offre alimentaire elle sera dispendieuse. Plus l'approvisionnement en denrées fraîches va être complexe, puis plus la diversité aussi va être faible des produits qui sont proposés. Et ça, c'est aussi lié à la compétition entre les joueurs en alimentation. Plus vous avez de magasins ou d'enseignes différentes, plus les prix vont être tirés par le bas par la compétition. Donc dans des secteurs ruraux où vous avez un seul joueur, une seule épicerie, vous êtes tributaire des prix qui sont fixés par cette épicerie.
Il y a beaucoup de banques alimentaires sur le territoire. Il y a des gens qui, tu sais, moi, je suis dans un désert alimentaire chez moi, mais le garde-manger est bien garni. Donc, comment on peut mesurer l'impact en moyenne chez la population du fait qu'on soit dans un désert alimentaire? Parce que si je regarde chez moi, je le ressens pas. En tout cas, si oui, je m'en rends pas compte, mais j'ai pas l'impression de ressentir ce désert alimentaire. Au besoin, s'il manque du lait, du pain ou du beurre, il y a le marché qui est à moins d'un kilomètre, qui est pas un épicier, mais qui a quand même une certaine offre. Donc, ça veut dire quoi? Comment on prend ça? Parce que, comme je disais, c'est pas parce qu'on est dans un désert alimentaire qu'on est sous-alimenté, qu'on manque de nourriture, qu'on n'y a pas du tout accès. Donc, comment on prend ça? Ça veut dire quoi concrètement, là, vivre dans un désert alimentaire quand on est la table de concertation? C'est quoi l'étape suivante une fois qu'on a dit « vous êtes dans un désert alimentaire »?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un facteur de risque de vivre dans un désert alimentaire. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez souffrir d'un mauvais accès à l'alimentation. Hein, comme on vous le mentionnait, si une personne peut se déplacer facilement, si elle a un accès à un véhicule, ce n'est pas un problème. Mais c'est du temps. C'est le coût du déplacement et le temps que la personne va mettre pour se déplacer. Plus vous êtes dans un secteur où l'accès est inégal ou inadéquat, plus ça va vous coûter cher, plus vous allez être vulnérable si, par exemple, vous dépendez de quelqu'un qui vous amène ponctuellement. Cette personne-là n'est pas disponible, vous vous retrouvez sans moyen d'accéder à cette épicerie, par exemple. Et puis, ben, ça demande une plus grande planification, ça demande plus de temps pour planifier ses déplacements, planifier ce qu'on va acheter. Ça rend plus complexe l'accès à l'alimentation. Puis, l'alimentation auquel vous allez avoir accès sera plus chère que dans d'autres secteurs. Si vous étiez, par exemple, en ville à Maniwaki ou en ville à Gatineau, par exemple, c'est plus abordable dans les grands centres, souvent. Qu'est-ce que ça veut dire sinon? Ben, ça veut dire qu'il faut investir davantage dans ces secteurs-là. Investir dans des services, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez regarder ce que font les acteurs qui font une popote roulante dans votre territoire, où est-ce qu'ils livrent le plus, quelles sont les personnes qui sont livrées et puis quel est leur profil. Vous pouvez aussi regarder les concentrations de dépannage alimentaire qui sont distribuées dans les différents secteurs de la vallée de la Gatineau. Puis c'est aussi un secteur qui se caractérise par une multiplicité d'acteurs, hein, plus que dans d'autres territoires de l'Outaouais. Et donc, ça vous permet de comprendre un petit peu que vous avez plus de chances d'avoir besoin d'une aide alimentaire quand vous vivez dans un désert alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le fait de vivre dans un désert alimentaire et le fait de demander de l'aide alimentaire si, par exemple, vous êtes tributaire de l'aide sociale. C'est-à-dire que si vous étiez sur l'aide sociale et que vous êtes dans un secteur où l'accès physique est bon, ce sera plus simple. Si vous avez à la fois un accès physique et un accès économique difficile, c'est certain que là, on parle d'une espèce d'intersectionnalité ou des défis. Hein, ça devient de plus en plus complexe.
Donc, si on se place, parce que là, une fois, c'est un très bel outil, ça. On fait un constat, on prend un portrait de la situation. Après ça, on l'envoie dans l'univers pour que les gens, les décideurs, les gens qui sont dans des organisations puissent prendre acte de ça et dire, écoutez, comment on peut faciliter la vie de ces gens-là, par exemple, en leur offrant du transport, en offrant du transport de sur le territoire. Donc, je vous pose la question, si vous étiez décideur, vous, dans la vallée de la Gatineau, vous prenez acte de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je parlais du transport, mais... est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on n'a aucun pouvoir?
Au niveau du transport, c'est sûr que c'est une bonne idée. Au niveau, justement, des municipalités et de la MRC, il y a des leviers économiques pour favoriser l'implantation d'autres établissements de vente alimentaire. Ça peut être aussi un levier. Sinon, les leviers qui appartiennent davantage au ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est le financement des organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire. Un rehaussement de leur financement, notamment à la mission, pour assurer qu'ils peuvent mieux remplir mieux répondre aux besoins donc des personnes qui vivent sur votre territoire. Donc ce serait ces trois axes-là, le transport, l'établissement de davantage d'établissements de vente et le soutien aux organismes déjà existants.
Et comment faire en sorte qu'on ait une multiplication des points de vente d'épicier? C'est le privé qui fait ça ou c'est par le mode de coop? Comment ça peut se faciliter?
Ouais. Il y a un bel exemple de coop qui se situe à Bouchette. Donc, il y a des citoyens et citoyennes qui se sont mobilisés pour maintenir un point de service alimentaire avec un souci pour les prix et le caractère local des produits proposés. Donc, ça, c'est un bel exemple qui existe dans la vallée. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes une municipalité ou la MRC, travailler sur notamment les comptes de taxes et les incitatifs fiscaux pour permettre à des établissements de s'installer. Ça peut être aussi un questionnement sur le zonage foncier. Ça peut être aussi des leviers qui sont utilisés comme ça.
OK. Écoutez, c'est très intéressant. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter pour la discussion, M. Pays?
Oui, je vous dirais que ce qui caractérise la vallée, c'est justement la faible densité de population, puis la difficulté d'avoir des points de service centraux en dehors de Maniwaki, puis de Grassfield. Ce serait effectivement de réfléchir à la situation des communautés les plus périphériques. Là, vous n'avez pas d'épicerie du tout, puis des épiceries dans justement des territoires difficiles d'accès. On pense notamment au territoire de Lac Rapide, Lac Barrière. Donc, c'est dans ces territoires-là qu'il faudrait se poser les questions d'accès à l'alimentation, puis du coût de l'alimentation, et peut-être mettre en place des circuits de livraison, puis des circuits de transport des personnes, afin d'avoir une vraie logique à l'échelle de la MRC d'accès à cette alimentation-là. Puis on a des organismes qui travaillent très fort dans la vallée à avoir cette logique-là d'approvisionnement en ce moment.
Écoutez, c'est intéressant parce que là, le travail qu'a fait Lodo va donner un peu de travail aux gens chez nous à la table de développement social, dans les banques alimentaires. Nos élus vont avoir à cogiter là-dessus, à se pencher là-dessus, à dégager des enjeux propres à chez nous et à trouver des solutions pour les mettre en place. Donc, on va suivre ça avec attention chez nous. Monsieur François Pays, je le dirais, vous êtes directeur général de la table de concertation sur la fin et le développement social de l'Outaouais. Je vous remercie d'avoir apporté votre éclairage là-dessus. C'est intéressant parce que c'est une belle analyse, mais de Lodo, mais qu'est-ce que ça représente clairement pour monsieur, madame, tout le monde dans ces déserts alimentaires? Vous avez apporté des précisions à ce sujet, puis je vous en remercie.
Merci à vous.
C'est ainsi que prend fin l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Monsieur Patrick Logue est avec nous, président de la Corporation du Château Logue, pour jaser des travaux en cours pour remettre en état ce bâtiment, mettre en valeur également, c'est ce qui est important, ce bâtiment. Stéphanie Matté est avec nous de l'Association de hockey mineur de Maniwaki pour jaser des comportements disgracieux dans les estrades. On se rend compte que c'est pas à tous les jours, c'est pas nécessairement monnaie courante, ou en tout cas c'est pas à tous les jours, mais c'est quelque chose qui se produit suffisamment souvent pour que Hockey ou et Hockey Québec veuillent mettre en place des sanctions plus sévères contre les parents et les joueurs qui s'en prendraient donc aux arbitres. Et on les entendait, Alexandre Bégin et François Pays, qui nous ont parlé dans les dernières minutes de ces déserts alimentaires et de leurs conséquences pour les gens donc, de la vallée de la Gatineau qui vivent, qui résident dans ces déserts alimentaires. J'espère que vous avez apprécié. Vous voulez retrouver un segment de l'émission www.caga.fm dans la section émissions sous l'onglet Heure juste. Vous allez pouvoir retrouver tout cela dans les prochaines minutes. Et sinon, on va se retrouver, nous, la semaine prochaine pour une autre édition de L'Heure juste. Bonne journée. Au revoir.